France Inter.
L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Alaume à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Florian Dittre à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Toujours à cette heure tardive, je descends boire le dernier verre. Et je le contemple avec une tendresse particulière. D'habitude, j'ai eu la chance à ma machine, et je réserve le dernier verre pour boire aux dieux qui m'ont donné cette chance. Et ce soir, ou plutôt ce petit matin, je me suis dit pour la première fois, dernier verre, et le dernier des derniers, ça arrivera. L'heure du dernier verre sonnera pour tout le monde. Bizarre d'imaginer ce corps étendu là qui ne veut pas boire. Vous aurez beau me le verser dans la bouche, nada. Chinaski? Non, il n'a pas rejoint les alcooliques anonymes. Il a juste arrêté d'un seul coup. Bingo, comme ça.
Le dernier vers, Charles Bukowski, lu par Georges Clès. Bukowski, un philosophe, on peut dire, hein, pas franchement comme les autres, auteur de romans, de nouvelles, de poésie, et qui toute sa vie s'est demandé comment trouver le bonheur lorsqu'on sous-entend qu'il n'existe pas. Bukowski buvait, et il s'est certainement posé la question que nous soumet notre invité, Laurent de Sutter, jeune philosophe belge et francophone. On peut encore dire que vous êtes un jeune philosophe.
Vous avez le droit.
Professeur de théorie du droit à Bruxelles. Alors, vous vous posez cette question, que fait l'ivresse à la pensée? L'ivresse est-elle une éthique qui dépasserait toute morale ordinaire? Pour qui boit-on? À quoi donc l'ivresse peut-elle bien servir? Boire, c'est s'incorporer dans le vrai, pensait Rabelais, in vino veritas, dans le vin la vérité, que l'on trouve déjà chez Pline l'Ancien. Vous publiez un essai intitulé « L'art de l'ivresse », c'est aux presses universitaires de France. Mais avec vous, il faut se méfier des titres, parce qu'il y a eu « Pour en finir avec soi-même », il y a eu « Décevoir est un plaisir », d'autres essais que vous avez publiés. Donc il vaut mieux creuser peut-être les questions que vous vous posez, que vous nous donnez à voir. Il y a réellement un art de l'ivresse?
Disons que c'était... au moins l'idée que j'avais envie de poursuivre, c'était que j'avais envie de présenter d'une certaine manière, c'est le fait que l'ivresse n'est pas simplement un phénomène physique, c'est pas simplement un phénomène de santé publique, etc. L'ivresse est quelque chose qui a des conséquences qui dépassent les purs effets physiologiques, des conséquences qui peuvent être des conséquences sociales, des conséquences politiques, des conséquences éthiques ou esthétiques. Et donc, en effet, il y a un art de l'ivresse au sens où il y a une nécessité, ne fût-ce qu'intellectuelle, je crois, par rapport à l'ivresse, de se dire qu'est-ce que, en effet, l'ivresse produit et comment peut-on accompagner, d'une certaine manière, cette ivresse dans ce qu'elle a d'artificiel. Voilà. Il y a un art de l'ivresse au sens où rien de ce qui concerne l'ivresse n'est naturel.
Il ne peut y avoir de vérité qu'ivre, écrivait Kierkegaard.
Je pense que c'est une des thèse forte que tout le monde, d'une certaine manière, devrait défendre, surtout après 2500 ans d'histoire de la philosophie, d'histoire de la pensée, où on se rend quand même compte que la quête, effrénée de sobriété et d'une vérité qui serait effectivement une vérité raide, propre sur elle, etc.
Mais il y a quand même quelque chose de transgressif aujourd'hui à tenir les propos que vous tenez.
Ah mais clairement, quand vous allez dans les...
Boire est quand même dangereux pour soi et pour les autres.
Boire est extrêmement dangereux. Boire est extrêmement dangereux du point de vue médical d'abord. Vous savez, il y a cette fameuse étude du Lancet en 2018 là, qui nous a clairement dit que la seule consommation d'alcool raisonnable médicalement, c'est zéro. Bon, donc effectivement, on sait que c'est compliqué et problématique pour soi, et c'est sans doute problématique aussi collectivement. Mais il n'en demeure pas moins que imaginer un monde où l'ivresse serait absente, c'est imaginer en fait un monde qui lui-même devient absent. C'est les paléanthropologues qui ont démontré cela de manière relativement, relativement factuelle, en étudiant les premiers sites construits par les nomades, les premiers endroits en Turquie, dans lesquels, avant même la sédentarisation, les nomades s'arrêtaient et se sont rendus compte qu'en fait, c'est à cet endroit-là que l'on trouve aussi les premières traces, bien évidemment, de fermentation et de fermentation alcoolique. Mmh. C'est la fameuse hypothèse « beer before bread », la bière avant le pain, que les paléanthropologues défendent aujourd'hui, qui est de dire à un moment donné, les gens ont réalisé qu'en effet, en fermentant des grains ou en fermentant des fruits, on pouvait produire un liquide qui avait des effets sur le corps. Et ces effets, on pouvait les partager avec d'autres et pas simplement être soi-même dans son propre acharnement de chasseur. Aujourd'hui, les paléanthropologues donnent raison à William Faulkner lorsqu'il disait que la civilisation commence avec la distillation.
Alors, il se trouve que vous avez voyagé, Laurent de Sutter, dans le monde entier, et c'est aussi à travers l'histoire que vous nous invitez d'aller, et vous dites bien qu'il y a, on va en parler au cours de cette émission, une éthique, une esthétique, une épistémologie de l'ivresse, une politique aussi de l'ivresse, et non pas une politique de la sobriété, comme on le voit si souvent. Michel Foucault, c'est une archive INA qui date de 1971.
Grande remise en question de la souveraineté du sujet. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'expérience de la drogue, si vous voulez? Sinon, ceci, effacer les limites, rejeter les partages, mettre hors circuit toutes les exclusions, et se poser à ce moment-là la question, qu'en est-il du savoir? Est-ce que l'on sait quelque chose de tout à fait autre? Est-ce que l'on peut encore savoir ce qu'on savait avant l'expérience de la drogue? Est-ce que ce savoir d'avant la drogue est un savoir qui est encore valable, ou est-ce que c'est un nouveau savoir auquel quel est le... Bon, c'est un problème, et je crois que dans cette mesure-là, l'expérience de la drogue n'est pas marginale dans notre société, c'est pas une espèce de petite déviance qui ne compte pas, il me semble qu'elle est là au cœur même des problèmes que la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire la société capitaliste, se pose. Bon, il me semble également que le maoïsme, si vous voulez, est également sur un tout autre mode, et je crois avec une toute autre ampleur historique, certaines façons aussi de retrouver ce problème-là. C'est-à-dire, à partir du moment où l'homme sera effectivement libéré de tout le système de contraintes, non seulement le système de contraintes économiques, mais le système de contraintes politiques, morales, culturelles, que le capitalisme a fait peser sur lui depuis des siècles. À partir du moment où cette libération-là sera acquise, alors, quel savoir sera possible?
Ce que Foucault dit pour la drogue, est-ce qu'on pourrait le dire pour le vin?
Je pense qu'on pourrait le dire pour le vin, on pourrait le dire pour l'alcool. D'abord parce que l'alcool est effectivement une drogue, et sans doute la plus efficace ou la plus puissante de toutes les drogues, puisque quand vous faites un petit électroencéphalogramme de quelqu'un sous alcool, vous avez tout le cerveau qui s'illumine comme un arbre de Noël, là où les autres drogues ne se contentent de stimuler une partie du cerveau. Mais je suis d'autant plus d'accord avec Michel Foucault qu'en effet, je pense que l'expérience des psychotropes, et en particulier l'expérience de l'alcool, est une expérience qui nous oblige à minima, poser toute une série de questions à l'héritage philosophique occidental, l'héritage philosophique européen, qui est un héritage qui n'a pas cesser de se constituer autour de catégories, l'être, la vérité, la beauté, etc., etc., qui sont des catégories qui ont été paramétrées par une logique générale qui est une logique de la sobriété. Il s'agit de toucher la vérité en elle-même, il s'agit d'isoler l'être de ses accessoires inutiles, il s'agit de dire ce qu'il en est de la beauté contre la laideur, il s'agit d'expliciter les règles de la morale, etc., etc., etc. Je pense que l'expérience de l'ivresse et le fait que l'ivresse traverse, quoi qu'on en veuille, au fond, toute l'histoire de l'humanité, devrait nous interroger sur le bien fondé de ces catégories et évidemment aussi sur ce que la logique de la sobriété nous fait oublier. Et je pense que l'idée de se pencher sur l'ivresse, enfin, disons ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, dans l'art de l'ivresse, c'est effectivement m'interroger sur qu'est-ce que cela pourrait faire de prendre en charge ces grandes catégories issues de l'histoire de la philosophie et de les enivrer, de les rendre un peu titubantes, de les flouter, de les faire replonger pour partie dans l'ombre dont la philosophie voulait absolument les extraire, comme si la lumière, la clarté, la distinction précise des choses était la seule possibilité laissée à la pensée.
Alors il se trouve que vous revenez du Japon et que ça c'est présent dans le livre. L'alcool y joue un rôle politique, c'est-à-dire on pense plus à son usage qu'à son interdiction. Donc on n'est vraiment pas du tout comme ici. En Occident, on ne parle pas vraiment de modération au Japon.
Alors, bon, d'abord, je pense que aujourd'hui, disons, dans un contexte, ce n'est pas une réponse directe à votre question, mais c'est quelque chose, je crois, qui est important de dire aujourd'hui, dans un contexte qui est un contexte extrêmement globalisé, je pense que ça n'a plus de sens de faire de la philosophie à échelle strictement européenne. C'est-à-dire que continuer à considérer qu'on ne pense que dans les termes de Platon, Descartes, Kant, Hegel, etc., etc., aujourd'hui n'a plus de sens tout simplement parce que c'est effacé d'une certaine manière des traditions qui sont des traditions séculaires et millénaires, qui sont aussi des traditions de pensée, des traditions qui ont dialogué du reste avec la philosophie européenne et des traditions dont il s'agit de se faire l'écho. Donc c'est vrai que pour moi, il est important, et c'est quelque chose que j'essaye de faire dans tous mes livres, d'aller chercher des ressources en dehors de notre petit monde, d'une certaine manière, pour essayer de voir si on peut penser avec d'autres œuvres, d'autres regards, etc., dont, en effet, les regards issus de l'Asie, dont ceux issus du Japon.
Où on pense une utopie politique, il y a notamment, enfin, vous citez, moi, c'est des gens que je ne connais pas du tout, Chomin, c'est comme ça qu'on...
Naked Chomin,
qui a écrit des dialogues, en fait, c'est une discussion très politique, dans un contexte politique tumultueux au Japon à ce moment-là, qui aboutit finalement à la naissance d'une utopie, mais une utopie ivre.
Bien sûr, oui, c'est un texte extraordinaire qui est le texte le plus célèbre de ce philosophe de la fin du 19e siècle, qui a été au Japon l'introducteur de Rousseau, qui a été le grand défenseur des idéaux, disons, démocratiques dans un moment où le Japon se cherchait, hein, c'est le Japon de l'ère Meiji qui ne sait pas très très bien s'il doit complètement s'ouvrir au monde, s'il doit renier ses traditions, ses hiérarchies, son aristocratie, etc. Qu'est-ce qu'il doit embrasser de la modernité ? Nakae Chomin est celui qui vient dire, écoutez, il y a au moins un certain nombre de principes politiques, de raisonnements politiques, d'idées démocratiques que l'on devrait, d'une certaine manière, méditer. Et dans ce livre, donc... très connu au Japon et assez peu connu malheureusement chez nous, qui s'appelle Dialogue politique entre trois ivrognes, ils mettent en scène deux personnages.
Avec un arbitre.
Voilà, exactement, deux personnages, l'un qui représente la tradition, l'autre qui représente la modernité, et un vieux sage que ces deux personnages viennent visiter avec une bouteille de cognac et qu'ils se mettent à vider comme ça, ensemble, à trois, en essayant de comprendre ce qui se passe et en défendant chacun leur bout de gras d'une certaine manière et en essayant d'obtenir l'adhésion du vieux sage qui finit par, en effet, proposer une morale qui est une morale parfaitement décevante. Parfaitement décevante si on s'attendait à ce que, en effet, l'ivresse leur fasse faire des gros délires, d'une certaine manière. Hein, c'est ce qu'on attend souvent de l'ivresse. L'ivresse nous fait péter les plombs et on se met à raconter n'importe quoi. Et subitement, on se retrouve avec quelque chose d'assez fade, une espèce de proposition, un peu de parlementarisme démocratique un peu molle, comme ça. Mais une proposition dont on se rend compte, si on y réfléchit une seconde, que dans le contexte du Japon de l'époque, c'est une proposition folle en réalité. Ce qui nous paraît tenir d'une espèce de fadeur, c'est le contraire de la révolution, c'est le contraire du grand soir, etc. Dans ce contexte très précis, c'est la proposition la plus ivre que l'on puisse faire.
Mais ce qui paraît possible dans une rêverie peut-il être mis en pratique en fait ? C'est ça aussi la question.
C'est évidemment une autre question. Je pense que la question de l'ivresse, en tout cas, de la manière dont j'essaie de la traiter, c'est une question qui est véritablement une question intellectuelle. Mmh. La manière dont ensuite elle est embrassée ou pas, dont les conséquences que la méditation sur et avec l'ivresse permet sont mises en œuvre, ça c'est un autre chantier qui quitte, je crois, celui des des compétences philosophiques ou théoriques.
Laurent de Sutter, vous êtes l'invité de L'Heure Philo. Vous publiez, je le rappelle, un essai intitulé « L'art de l'ivresse ». C'est aux Presses universitaires de France.
Téléphone encore, ivre mort au matin, car aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je me remémore notre nuit très bien, comme un crabe déjà mort. Tu t'ouvres entre mes mains, ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais et tes genoux à terre. Non, 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 je ne suis plus sous, un peu à bout, c'est rien. Je crois en toi, c'est tout. Allô, oui, c'est moi encore. Écoute-moi bien, moi la nuit quand je m'endors, je t'imagine très bien perdu sous d'autres corps, me réclamant en vain, bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais et tes genoux à terre. Un peu à bout, c'est rien. Moi je veux de toi, c'est tout. Mais ne raccroche pas encore, écoute-moi bien. Moi je voudrais qu'une fois encore tu me prennes pour quelqu'un et tes yeux brillent si fort, comme moi quand je suis plein, bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais et tes genoux à terre. Non, 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 je ne suis plus sous, un peu à bout, c'est rien. Moi je crois en toi, c'est tout. Non, 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 je ne suis plus sous, un peu à bout, c'est rien. Moi je veux de toi, c'est tout.
Non, 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 je ne suis plus sous, mieux sec. Laurent de Sutter, une confidence, allez, personne n'écoute. Votre bar préféré au monde, il est où?
Il est à Tokyo, je veux bien le reconnaître.
Il ressemble à quoi?
C'est un petit bar à cocktail qui s'appelle Trench, qui est coincé dans une arrière-rue, pas forcément facile à trouver, dans le quartier de Ebisu. Et c'est un petit bar qui a une dizaine de sièges, un peu à la japonaise, voilà, avec une espèce d'ambiance. Le Japon, de toute façon, est difficile à décrire quand on l'a pas fréquenté. C'est un pays des atmosphères et ce sont des maîtres dans la construction des atmosphères et notamment des atmosphères de bar. Donc c'est un bar très calme, très très intime, où on sent à la maison.
Gilles Deleuze, un extrait de l'abécédaire.
Ah oui, j'ai beaucoup bu ça. J'ai beaucoup bu. J'ai arrêté, donc. J'ai beaucoup bu. Qu'est-ce que c'était? C'est pas difficile. Moi, je crois. Il faudrait interroger d'autres gens qui ont beaucoup bu. Il faudrait interroger des alcooliques, tout ça. Je crois que boire, c'est une affaire de quantité. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'équivalent avec la nourriture. Même il y a des gros mangeurs, il y a des gens à moi manger, ça m'a toujours dégoûté, alors c'est pas mon affaire. Mais la boisson, c'est une question. J'entends bien qu'on ne boit pas n'importe quoi, que chaque buveur a sa boisson favorite. Mais c'est parce que c'est dans ce cadre-là qu'il saisit la quantité. C'est affaire de quantité, ça veut dire quoi? On se moque beaucoup des drogués ou des alcooliques. Parce qu'ils ne cessent pas de dire, oh, vous savez, moi je maîtrise, j'arrête de boire quand je veux. On se moque d'eux, mais c'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Moi j'ai des souvenirs très nets, je voyais très bien ça, et je crois que tous les gens qui boivent comprennent ça. Quand on boit, ce à quoi on veut arriver, c'est au dernier verre. Boire, c'est à la lettre. C'est tout faire pour accéder au dernier verre. C'est ça qui vous intéresse.
Alors, le dernier verre, quelquefois c'est le premier, mais on ne boit que pour continuer à boire. Est-ce qu'il y a un dépassement de soi dans le fait de boire.
Je pense qu'il y a un dépassement de soi, mais le dépassement de soi n'est pas nécessairement lié à la quantité. Je pense que c'est simplement lié à l'altération. Altération, c'est un très beau mot. C'est un très beau mot parce que ça signifie à la fois la soif et le changement. C'est chez Rabelais que le mot altération n'arrête pas de revenir. Je suis altéré. Il faut boire. Il y a dans la boisson quelque chose comme un phénomène qui est un phénomène de ruine de ce qui se donne à nous comme constitué, légitime, garanti, solide. Par exemple, effectivement, notre personne, notre nous-mêmes, notre soi, notre être, etc.
Et notre corps.
Notre corps, bien évidemment, c'est notre corps qui nous rappelle que nous n'avons pas d'être. C'est parce que notre corps se trouve affecté, altéré par l'ivresse, que soudain nous nous rendons compte que l'image que nous nous faisions de nous-mêmes était une image qui était une image rassurante, mais fausse. Et qu'en réalité, ce nous-mêmes n'existe que dans une espèce de défraction ou de demi-effondrement qui en effet se poursuit, qu'on appelle la vie. Ça peut paraître parfaitement déprimant, cette affaire, évidemment, et d'une certaine manière, ça l'est. Mais moi, j'ai toujours trouvé que effondrer les grandes catégories de la philosophie avait quelque chose de réjouissant, parce que cela réouvrait à des possibilités que, disons, notre installation dans notre soi sûr de lui-même, n'incluait pas. C'est-à-dire qu'une fois que l'on est sûr de soi, on est sûr de ses capacités, on est sûr de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut penser, au fond, la route est toute tracée. La route devant nous, voilà, on sait ce que l'on va explorer. Lorsque l'on s'imagine fracturé avec des trous, avec des etc., etc., ce que l'alcool, ce que l'ivresse vient nous rappeler, subitement, cette route bien tracée commence à connaître des alternatives possibles. On peut se mettre à battre la campagne, littéralement. On peut explorer d'autres espaces. On peut imaginer d'autres rêves, etc., etc. Et donc, il me semble que l'ivresse, du point de vue ontologique, pour utiliser un grand mot technique de la philosophie, a cette capacité à réinstaller au cœur des individus ce que les individus cherchent à chasser par peur, par crainte, effectivement, de la possibilité. Nous avons peur, en réalité, de la possibilité. L'ivresse nous rappelle, en effet, que nous sommes des êtres de possibilité.
Pour que le vin soit bon, il faut un beau compagnon ?
Oui, bien sûr. Boire seul, c'est une catastrophe. Et il est vrai que les grandes figures, par exemple de la poésie, ont beaucoup médité de la poésie dans le monde chinois, de la poésie dans le monde arabe, ont beaucoup médité cette question de la commensalité, cette question de la compagnie, cette question de la société avec laquelle on boit. On boit toujours en compagnie, ne fût-ce que parce que boire, c'est d'une certaine manière, toujours sortir de soi-même. L'ivresse, le premier effet de l'ivresse, c'est en effet cet effet d'effraction du soi qui fait que subitement un dehors se met à arriver. Un dehors devient quelque chose que l'on peut rencontrer. Évidemment, la première rencontre, elle s'opère avec la personne avec qui on boit. Et c'est vrai que dans l'art de l'ivresse, je parle beaucoup d'un poète arabe qui était le grand réformateur de la poésie arabe au 9e, 10e siècle, le poète Abou Nouas, dont la poésie ivre est absolument merveilleuse et remarquable.
Il aimait les virées nocturnes, les cabarets,
il aimait la chasse. Il aimait la nuit, il aimait la ville, il aimait les garçons, il aimait boire, il aimait, etc. Toute une série de choses qui étaient des choses relativement nouvelles dans la poésie arabe de l'époque, qui était une poésie du désert, une poésie des gazelles, etc. Lui se met, d'une certaine manière, à chanter la modernité, mais il la chante précisément comme un commensal, comme quelqu'un qui ne boit pas pour lui-même, mais boit avec les autres, et ensuite, avec les autres, part en virée, explore d'une certaine manière ce monde, cette autre face du monde, la face obscure du monde, dont il fait quelque chose de lumineux.
Et il a fait des émules ?
Il y a, en tout cas dans l'histoire de la poésie de langue arabe, il y a une longue tradition, qui est une tradition à la fois de la commensalité, une tradition de l'ivresse, une tradition de l'exploration, mais aussi dans la tradition moderne.
Mais que dit le Coran à ce sujet ? Parce qu'on entend des choses extrêmement contradictoires. Arriver ivre à la prière, c'est pas forcément ce qu'on demande aux pèlerins.
Non, bien sûr. Il y a aussi une dimension de transgression. Alors le Coran, évidemment, est une affaire, relativement compliquée, parce qu'en fonction des interprétations que vous donnez de telle ou telle sourate, les choses sont plus ou moins fermées, plus ou moins difficiles. Et c'est vrai que les spécialistes soulignent très souvent, d'une certaine manière, l'ambiguïté qu'il y a. Parce que d'un côté, en effet, dans les sourates, surtout les sourates tardives, le discours de Mahomet est très clair. L'alcool, c'est le mal, hein, d'une certaine manière. L'alcool est équivalent à Satan. Et puis, dans d'autres, on sait très bien qu'en effet, ce sera... C'est ce qui attend le croyant au paradis. Les fontaines de cet alcool qui ne rend pas ivre, que l'on peut boire en permanence et qui ne vous rendra, voilà, qui ne vous rendra jamais malade. Donc
mais
il y a une espèce de tension.
En ce sens-là, l'ivresse n'est pas aussi l'épreuve d'une certaine limite, même si la limite est relativement floue et que c'est, au fond, boire avec modération, c'est une épreuve.
Boire avec modération, d'une certaine manière, d'abord c'est un non-sens, comme l'ont rappelé les médecins. En effet, on ne boit jamais avec modération, on boit toujours trop. Un verre, c'est déjà trop, d'une certaine manière. Donc, en effet, il y a une danse avec la limite qui hante en permanence l'ivresse et qui la hante comme véritablement une question philosophique. C'est-à-dire, comment est-ce que tout ce que l'on croit donné, évident, au fond, peut passer à la limite? Comment est-ce que la politique... par exemple, inscrit dans l'espace de la sobriété, peut passer à la limite. Comment la vérité peut passer à la limite, etc. Comment le soi, comme on l'a déjà dit, peut passer à la limite. Donc en effet, c'est une épreuve de la limite, mais une épreuve de la limite déjà dépassée. C'est une épreuve de l'exploration de ce qui se passe au-delà de la limite. C'est pour ça que, en effet, l'ivresse a toujours rapport avec quelque chose qui est de l'ordre d'une extériorité ou d'un dehors, de quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes ou au-delà de ce qui nous est d'une certaine manière donné. C'est une manière, l'ivresse, de nous redonner un monde là où on cherche... la plupart du temps, et en tout cas dans le domaine de la philosophie, à s'en protéger.
Mais nous montrer aussi que l'intimité, c'est peut-être le lieu du danger aussi.
Bien sûr, le danger, en réalité, le danger est partout. C'est ça qui est peut-être formidable avec l'ivresse, c'est qu'en effet, si on la regarde nous animer dans notre vie, si on la regarde animer, en effet, des discours politiques comme celui de Nakae Chomin, si on la regarde animer des interrogations sur ce que c'est que le vrai, comme les alchimistes, par exemple, ont pu le faire, eh bien, au fond, cette animation que l'ivresse produit, eh bien, elle nous emmène véritablement du côté de l'inconnu.
Marguerite Duras, elle a aussi des choses à dire. Elle a dit des choses sur le sujet.
On sent pas la mort dans l'alcool. Et tout est comme si Dieu existait. Je pense que les gens qui boivent, qui m'écoutent là, doivent reconnaître ce que je dis. C'est Dieu, l'alcool. Le monde est vide et voilà. Tout à coup, il y a Dieu. Et le monde est bon et... resplendissant. J'ai parlé avec quelqu'un que j'aime beaucoup cet été, qui boit de façon moins régulière que moi, et qui m'a dit ça, l'absence de Dieu, c'est la cause. Et j'étais complètement éblouie par cette évidence. Et des gens étaient là autour de la table, et tout le monde s'est tu devant nous. Au lieu de nous combattre, tout le monde a cru ce qu'on disait, c'est-à-dire tout le monde s'est mis à croire des alcooliques. C'est bien. Mais c'est sûr que l'alcool mène à la mort. Ça, cette fois-ci, je l'ai senti tangiblement. Je ne pouvais plus écrire, par exemple. La main ne tenait plus la ligne droite.
Marguerite Duras, alors l'alcool mène à la mort, mais on ne sent pas la mort quand on boit. C'est comme ça qu'elle a commencé.
Oui, c'est un discours, ce discours de Marguerite Duras, c'est un discours qui est très très moderne. Très moderne et très européen d'une certaine manière. C'est ce rapport que le XXe siècle a pu avoir avec l'alcool et l'ivresse, qui est un rapport lié à une certaine idée de la... une certaine idée, en effet, de la destruction, de l'absence de Dieu... Je dois vous avouer que c'est un discours qui me laisse un petit peu perplexe parce que je me demande si ce n'est pas d'abord mettre un peu trop de choses dans l'ivresse. Est-ce que l'ivresse effectivement a un rapport immédiat avec le divin? Est-ce que c'est ce qui vient pallier l'absence de Dieu?
C'est quand même une forme d'accès au divin.
Disons que c'est quelque chose qui vient. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire que d'une certaine manière, l'ivresse, c'est ce qui nous ramène sur Terre. en l'occurrence. Nous avons une tendance naturelle, en tout cas une tendance philosophique ou une tendance théorique, à en effet nous imaginer des dieux, à nous imaginer des vérités resplendissantes, à nous imaginer des beautés transcendantales, etc., etc. L'ivresse, parce qu'elle d'abord agrippe, saisit notre corps, et puis ensuite nous oblige d'une certaine manière à négocier avec ce que cela fait avec notre corps, nous ramène en réalité sur dans le monde tel qu'il est, ce monde où en effet on peut se faire mal, ce monde où on peut souffrir, ce monde, etc. Mais ce monde qui est aussi un monde de beauté, ce monde qui est aussi un monde de possibilités, etc., etc. Donc c'est pour ça que les élans extatiques ou les élans mystiques qui ont pu traverser le XXe siècle à propos de l'alcool, sont des élans dont il me paraît qu'ils nous ont engagés dans une voie qui était une voie qui, en fait, qui a fait trop plaisir aux amateurs de police, à ceux qui ensuite ont voulu régler notre rapport à la boisson, ceux qui ont, voilà, les prohibitionnistes, les hygiénistes, etc. C'était leur faire un trop grand cadeau. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à considérer l'ivresse et l'alcool comme quelque chose de parfaitement pragmatique, voilà, de parfaitement concret, et qui nous oblige, en effet, à négocier avec ce qui se passe dans le monde. Comme Nakae Chomin avait besoin de négocier avec la politique du Japon de son époque, comme Abu Nouas, dans la Bagdad du Xe siècle, avait besoin de négocier avec cette invention nouvelle de la ville, Bagdad, qui est la capitale du monde à l'époque, qui est la première ville à compter plus d'un million d'habitants. C'est une transformation absolue, d'une certaine manière, des modes de vie humains, etc., etc. Voilà, donc c'est vrai que, avec toute la sympathie et tout, évidemment, le respect que j'ai pour Marguerite Duras, je la suivrai pas sur la question de la mort et la question de Dieu.
Mais dans votre essai, L'art de l'ivresse, Laurent de Sutter, vous racontez une histoire qui elle-même est racontée par Kierkegaard, de trois comparses qui picolent bien. Quelle est leur histoire?
Une conversation imbibée sur les grandes obsessions de Kierkegaard, qui sont celles en effet de la relation que l'on peut avoir avec Dieu ou avec le divin, et qui conclut d'une certaine manière avec l'idée que boire, c'est effectivement, c'est l'incorporer, ce divin, c'est incorporer Dieu. Boire, c'est boire Dieu, d'une certaine manière. Mais boire, c'est boire Dieu, ça veut dire quoi chez Kierkegaard?
Ah oui, parce que dans la Bible, on sait ce que ça veut dire.
Voilà, alors boire Dieu, c'est boire quoi? C'est boire sa capacité de création, c'est boire ce qu'en latin on appellerait sa vis, sa force. Cette force qui est la force de la vérité même du monde. Cette phrase chez Kierkegaard, pour moi, signe en effet un retour au monde, au sens où on ne sort pas de soi-même pour s'évader de la terre et aller tutoyer d'une certaine manière Dieu là où il se situe, mais on revient sur cette terre dont la création se poursuit en permanence, et on s'incorpore par l'alcool cette puissance, à nouveau, les possibilités, qui permettent à cette création de continuer. Donc c'est une manière d'embrasser le fait qu'en effet nous participons au monde et nous participons à sa transformation, nous participons à cette création continue. Je pense que c'est une manière d'interpréter ce que Kierkegaard voulait dire quand il suggérait qu'en effet boire c'est s'incorporer Dieu. Ce n'est pas se transcender dans une autre dimension, c'est nous donner la force de poursuivre sur Terre le travail d'être sur Terre.
Vous écrivez « Le vin est un remède parce qu'il est un poison ».
Oui, vous savez, c'est une phrase qu'on aime bien, c'est un concept de Platon, c'est un concept grec qu'on aime bien répéter dans les cercles d'amateurs de philosophie, c'est le concept de pharmacon, vous savez, le pharmacon dont parle Platon dans le Phèdre.
Derrida aussi, il a parlé plus tard.
Dont parlait aussi le regretté Bernard Stiegler. Ouais. Et le pharmacon, c'est cette chose qui est et poison et remède, en même temps, qui possède les deux facettes. Et on décrit comme ça, beaucoup de réalités comme étant des réalités bifides ou des réalités un peu à la Janus. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus radical dans l'alcool, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce d'égalité, c'est tantôt poison, tantôt remède, mais quelque chose de, disons, de plus dialectique encore, de plus radicalement hanté par la négation que cette espèce de balance relativement équilibrée entre remède et poison, qu'en effet, l'alcool est un remède parce qu'il est un poison. S'il n'était pas un poison, s'il n'était pas dangereux, s'il n'était pas un problème, sa puissance s'en trouverait bizarrement diminuée. Elle s'en trouverait diminuée parce que nous n'aurions pas négocié avec lui. Et le fait que l'alcool soit un poison, et que ce poison se rappelle à nous en permanence, se rappelle à nous sous la forme de gueule de bois, se rappelle à nous sous la forme des conneries qu'on peut faire quand on a trop bu, ou qu'on peut dire, etc., etc., c'est à ce lieu-là qu'il s'agit de travailler. Il ne s'agit pas de travailler une substance qui serait une substance innocente. Il s'agit de travailler une substance qui peut nous foutre dans la merde, de manière très grave. Mais parce que il s'agit de négocier avec cette substance et qu'il s'agit de négocier sur le fil d'un rasoir, chaque décision se met à importer. Et chaque idée que l'on peut avoir aussi se met à importer. En ce sens, l'alcool est une épreuve. Et une épreuve qui est une épreuve physique, bien évidemment, mais qui est aussi une épreuve intellectuelle.
Donc, on en vous a bien compris, buvons selon un protocole et il faut à cela aussi une préparation mentale.
Je pense que boire, c'est pas quelque chose de léger. C'est pas du tout quelque chose de simple. En effet, il y a, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a une nécessité d'une qualité, disons, d'une qualité du boire, mais qui est une qualité qu'il s'agit de rajouter à l'acte de boire. C'est pas une qualité qui est propre à l'acte de boire en tant que tel. Il s'agit d'extraire d'une certaine manière, cette qualité de l'acte de boire. Et en effet, il me semble que ça doit passer par une connaissance élémentaire, d'abord de ce que ça signifie, puis de ce qu'on boit, de pourquoi on boit. Et c'est vrai que là, on touche un point, disons, qui est un point qui m'importe un petit peu. C'est vrai que je fais un petit peu de militance d'alcool et de spiritueux en faveur du vin, en faveur des alcools qu'on dit naturels, c'est-à-dire qui gardent intact le rapport à la terre dont ils sont l'émanation ou le produit, et qui ne sont pas tripotés par la chimie. Je veux dire, si l'alcool est dangereux, il ne s'agit pas d'en rajouter encore par des produits chimiques, par des manipulations, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une nécessité d'abord d'apprendre le pouvoir, cette force de comment est-ce qu'on peut la maîtriser, cette force qui n'est pas naturelle pour nous. Hein. Pendant des millénaires et même des dizaines de milliers d'années, l'alcool qu'on buvait, c'était des petites bières à 2 degrés, 4, 5. Et puis soudain, à partir du 12e, 13e siècle, puis ça s'est généralisé au 17e siècle, on se prend dans la figure des boissons à 40 degrés plus. Le corps n'est pas fait pour intégrer des quantités aussi invraisemblables d'alcool. Donc il y a en effet un apprentissage profond à faire dans notre relation à cela, qui est un apprentissage des quantités, un apprentissage aussi des qualités. Voilà, qu'est-ce que l'on boit et pourquoi boit-on ces choses-là? Quels sont en effet les effets que l'on souhaite tirer de la boisson? Moi, c'est vrai que ma relation personnelle à la boisson et à l'alcool...
J'allais vous poser la question. Comment, par exemple, quand vous écrivez, quand vous réfléchissez, est-ce que c'est accompagné d'un verre de vin ou d'autre chose, de saké, peut-être que sais-je, ou pas?
Jamais. Je n'écris pas sous...
Vous n'avez pas besoin d'être en transe pour être...
Non, l'écriture suffit d'une certaine manière. Suffit à m'enivrer. Par contre...
On peut s'enivrer de vertu, même Baudelaire le disait.
Bien sûr. Par contre, il faut arriver préparé quand il s'agit d'écrire. On n'écrit pas comme ça. Voilà, quelque chose s'est produit avant, des rencontres, des conversations, des discussions. Et c'est vrai que la conversation, l'échange... le dîner, le comptoir, etc., sont des lieux qui sont des lieux de méditation et de préparation, qui sont des lieux imbibés, de manière plus ou moins importante, et qui sont des lieux d'échange et de partage avec d'autres qui font penser.
Mais est-ce qu'un homme sous peut dialoguer véritablement avec un homme sobre? Je dis un homme, ça peut être une femme, évidemment.
Il me semble que ça devrait être possible. Je vois pas pourquoi ce serait impossible. Disons que ça devient impossible si la personne sobre revendique sa sobriété. Mais c'est aussi impossible si la personne ivre revendique son ivresse. Il s'agit à chaque fois de... Il n'y a pas de grandeur particulière à l'ivresse. Il n'y a pas de grandeur particulière au fait de boire. Je veux dire, à nouveau, c'est une question qui est une question pragmatique. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on souhaite en tirer? En soi, ce n'est rien si ça ne produit aucun effet. Et ces effets sont... Alors, peu importe. C'est effectivement, s'il s'agit d'écrire des livres, est-ce que ça vous fait réfléchir? Mais ça peut être simplement tisser des relations avec des personnes qui vous sont chères, ou peut-être avec des inconnus avec qui vous avez envie d'établir des relations, etc., etc. Donc, voilà, j'ai pas de point de vue particulier sur la sobriété en soi ou l'ivresse en soi. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est effectivement les conséquences et les effets. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça?
Vous êtes bien sur France Inter et c'est l'heure philo que vous écoutez. Marguerite Duras, tout à l'heure, Laurent de Sutter, les femmes qui parlent de l'alcoolisme, du fait qu'elles boivent, il y en a peu. Et évidemment, il y a tout un passage que je dois dire qui est très intéressant dans votre essai, c'est Dorothy Parker, c'est donc dans les années 30, qui a fait au fond de l'ivresse la condition de son art. Et elle ne s'en cachait pas du tout, et elle-même, elle le revendiquait.
Oui, c'est toute une génération qu'on a appelée la Lost Generation, ce groupe d'écrivains.
Faulkner, Steinbeck,
Hemingway. Voilà, Chandler. Tous étaient des buveurs invraisemblables, sans doute les plus grands buveurs de l'histoire, de la littérature, d'une certaine manière.
Mais Parker, il paraît qu'après 3 whisky, enfin c'est vous qui le racontez, elle se prenait pour Saint-François d'Assise, mais tout en sachant très bien qu'elle n'était pas Saint-François d'Assise.
Voilà, il y a une petite nouvelle de Dorothy Parker qui est absolument merveilleuse, qui était en effet un monologue de femme ivre dans un bar, qui essaye d'établir une communication avec un homme à grand renfort, en effet, de whisky highball, et qui a cette phrase, en effet, après trois whisky, je me prends pour Saint-François d'Assise, j'ai envie de sauver un cheval dans la rue et de le faire rentrer dans mon appartement, etc., etc.
Et il faut prendre l'ascenseur, entre les deux.
Ouais, voilà, le problème, c'est qu'il faut prendre l'ascenseur et que c'est compliqué.
Il rentre pas dans l'ascenseur.
Voilà, c'est assez compliqué. Et c'est un texte qui est très émouvant, mais surtout un texte qui dit, en effet, cette relation, au fond, compliqué à la fois que l'on a avec l'alcool, mais aussi que l'on a avec nous-mêmes, et que l'alcool révèle. Il y a quelque chose d'assez beau dans ce texte. C'est un texte qui dit, d'une certaine manière, qui dit une vie pathétique, une vie qui ne réalise pas vraiment son désir, une vie qui rêve de choses qui sont des choses impossibles, mais qui le dit pas comme quelque chose qui relèverait de la tragédie. Pas quelque chose d'une certaine manière, c'est pas minable d'être minable. Il y a une espèce de beauté, d'une certaine manière, que l'ivresse révèle du fait de vivre des existences qui sont des existences minables. Le fait qu'en réalité, toute existence, d'une certaine manière, est un petit peu minable. On est placé en permanence devant des injonctions à la grandeur, à la réussite, à la performance, etc., etc. On doit tous devenir, d'une certaine manière, successful. Eh bien, dans ce texte, Dorothy Parker, qui elle-même était quand même relativement successful, il faut bien le dire, mais enfin, il y a cette espèce d'appel, qui n'est pas un appel à la modestie non plus, mais à simplement embrasser d'une certaine manière la réalité de ce qui est, et qui n'est pas forcément très reluisant.
Le philosophe Michel Fossel, c'était sur France Culture.
Alors, ivre de soi-même, il y a des gens qui sont ivres d'eux-mêmes, c'est-à-dire qui ne sont pas ivres d'autre chose que d'eux-mêmes, précisément. C'est-à-dire qui ne sont pas, eux, des alcooliques, pour le coup, en règle générale, mais des ascètes parfaitement, conscients de s'apporter à eux-mêmes l'expérience de franchir la limite, de se suffire à eux-mêmes, cette espèce de fantasme de l'autonomie. Peut-être, là, je l'accorderais volontiers, qui est un fantasme de puissance masculiniste, d'indépendance à l'égard de l'altérité. Il y a des gens ivres d'eux-mêmes, y compris en philosophie, c'est-à-dire qui pensent que leur expérience d'atteindre à la vérité, de la posséder par eux-mêmes, de la posséder d'autant plus qu'ils n'ont pas besoin de la confronter par le dialogue à d'autres, les constitue en citadelle, en quelque sorte imprenable. Donc il y a une mauvaise ivresse de la pensée, c'est certain, c'est celle qui consiste à ça a été évoqué, je crois d'ailleurs, par Serge Audier hier, quand il parlait d'Anna Arendt et du deux en un, c'est-à-dire celui qui pense qu'il n'a pas besoin de la voix de l'autre pour, au fond, jouir de ce qu'il dit, jouir d'atteindre la vérité, qui ne se laisse plus de ce point de vue inquiéter. Alors évidemment, là, il y a des métaphores, parce que quand on dit de quelqu'un qu'il est ivre de lui-même, on ne renvoie précisément pas à l'idée qu'il est affecté, soit par une vérité, soit par un alcool, soit par une rencontre, mais quelqu'un qui s'apporte à lui-même la conscience de sa propre totalité.
Il y a quelque chose d'un fantasme de puissance à l'ivresse ?
Alors, il y a peut-être, dans l'histoire de la pensée européenne, il y a peut-être quelque chose comme ça qui a été soutenu ou qui a été défendu, mais en réalité, l'ivresse fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, l'ivresse est ce qui vient ruiner les fantasmes quand les fantasmes sont pris en effet trop au sérieux parce que simplement ils ne tiennent plus debout parce qu'on ne tient plus debout
et donc non mais on a l'impression quand on a bu on peut avoir l'impression que le monde vous appartient, qu'on peut tout affronter, qu'on marche 10 centimètres au-dessus du sol.
On marche 10 cm au-dessus du sol. Par contre, est-ce que véritablement on a cette conscience de la toute-puissance? J'en suis pas sûr. Il y a d'autres drogues qui font cet effet, qui sont des drogues absolument calamiteuses.
Je sais pas, j'ai jamais essayé.
Oui, je n'essaye pas. Mais je n'ai pas le sentiment que... Alors, c'est peut-être... Je parle peut-être d'une expérience personnelle, mais je n'ai pas le sentiment qu'en effet, ça nous donne le monde. Ce que ça nous donne, c'est l'appétit du monde. Ça nous donne une forme de gourmandise, d'envie de l'embrasser, ce monde, d'une manière qui est différente. Et ça nous donne peut-être le sentiment qu'on est capable de l'embrasser.
Même quand l'alcoolisme est, on va dire, un peu brutal, je pense à Guy Debord, que, d'ailleurs, dont vous parlez aussi, il y a quelque chose de la brutalité de l'alcoolisme chez lui.
Bien sûr, chez Debord, l'alcool est violent et lui-même le revendiquait. Debord, je lui pardonnerai jamais quelque chose. Il y a beaucoup de choses à ne pas pardonner à Debord, qui est quand même un sacré trou du cul.
D'accord.
Mais il y a quelque chose que je lui pardonnerai jamais, c'est le fait d'avoir, avant tout le monde, vous savez, quand on n'aime pas quelqu'un, on lui pardonne pas évidemment ses qualités. Et parmi ses qualités, il y a le fait qu'avant tout le monde, il avait compris qu'en effet, les vins sans pesticides étaient quelque chose d'important, puisqu'il allait boire les vins de Marcel Lapierre dans le Beaujolais, dès la fin des années 70, début des années 80, au moment où en effet, l'industrialisation du monde du vin était totale, en France, et pas seulement qu'en France, d'ailleurs. Et ça, je lui pardonnerai jamais d'avoir ce bon goût. mais c'est vrai que chez Debord, l'ivresse est violente, et c'est une violence qui n'est pas seulement une violence pour lui, mais une violence qu'il imposait aux autres. C'est-à-dire, l'ivresse, c'était quelque chose qu'il s'agissait d'affronter quand on voulait rentrer dans son groupe. Hein, il défonçait la gueule des gens, et ça faisait partie, d'une certaine manière, des rituels situationnistes pour pouvoir être considéré comme, en effet, un bon révolutionnaire. Le bon révolutionnaire était celui qui devait parvenir à boire avec l'alcoolique profond qui était Debord.
Pas grand-chose à voir avec votre art de l'ivresse.
C'est totalement contraire.
Pourquoi vous l'avez nommé comme vous venez de le faire, que je ne reprendrai pas à mon compte. Merci beaucoup, Laurent de Sutter. L'art de l'ivresse est publié au PUF, aux Presses universitaires de France. Merci.